Есть рыба, которую соленая, как любимым.
On achète du poisson salé comme nous on l'aime, oui.
Сладости, которые напоминают нам наше детство,
Des sucreries, des douceurs qui nous rappellent notre enfance.
Это могут быть торты, это могут быть конфеты.
Des gâteaux, des bonbons.
Также, допустим, там баса обязательно.
Et aussi on achète du saucisson.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, on découvre tout de suite le dernier feuillet du carnet de route d'Anne Brunswick en Palestine. Aujourd'hui, à Ramallah, le 31 décembre 2008.
Voilà, il est bientôt minuit moins 10. Et sur la place Al-Manara, on a appelé ce soir un rassemblement de protestation parce que les gens n'avaient pas tellement envie de faire la fête ce soir. Et en même temps, bon voilà, donc... Donc il y a du monde qui s'est réuni là sur la place et puis on va peut-être passer la nouvelle année juste en pensant aux gens de Gaza qui sont encore sous les bombes à cette heure-ci. Hein. Il y a pas mal de monde ici sur la place, hein. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des femmes voilées et non, et beaucoup de bougies. Bonjour, vous souvenez de moi? Je m'appelle Anne Brunswick. Anne, voilà.
Le nom ne me venait pas.
Voilà.
Ça va?
Oui, ça va bien. Oui, voilà, je suis venue ici pour passer 15 jours et je ne m'attendais pas à des événements aussi tragiques. Hein. Comment ça va?
Pour s'attendre à ça tout le temps.
Oui, je sais que ça peut arriver ici, comme on dit, anytime, à n'importe quel moment. Hein.
Je suis désespéré depuis un moment.
Oui. Vous attendez quelque chose, je sais pas, un sursaut?
Je ne crois pas. Moi, je suis ici pour les gens de Gaza, ni pour ce régime ou l'autre, ni contre ce régime, ni l'autre. Ce sont les gens que je connais très bien. Ce sont les enfants qui souffrent tous les jours. Moi, je sais ce que c'est. Nous avons souffert ça uniquement pour 2-3 semaines. Eux, ils souffrent depuis des années. Et pour les gosses tués par les bombes là-bas, je suis ici pour encore une fois dire aux Israéliens que être sauvage, ça n'apportera aucune solution. Aucune solution. Et en fait, dire aux gens, au monde, que finalement, il faut commencer à dire ça aux Israéliens, directement et dans les yeux. Voilà.
Alors, il y en a dans cette manifestation qui tendent une chaussure parce que c'est devenu un symbole un peu de la résistance contre les Américains.
Oui.
Mais c'est un peu... C'est très symbolique et un peu dérisoire.
31 décembre, réveillon dans les rues de Ramallah. On est au quatrième jour de l'opération israélienne à Gaza. Anne Brunswick, vous êtes avec qui?
J'étais avec Georges Chleifi, c'est un monsieur que je connais, qui est d'ailleurs un personnage donc de mon livre, Bienvenue en Palestine. Il est cinéaste et il s'occupe aussi de la formation de la télévision scolaire là-bas, la télévision éducative. Il a formé des générations de jeunes réalisateurs palestiniens. C'est un homme qui n'est ni pour Fatah ni pour Hamas, il fait partie plutôt de la gauche laïque. Mais simplement, il y avait un grand réflexe de solidarité avec le peuple de Gaza. Et je dois dire que pas un instant, les gens de Ramallah n'ont pensé que c'était une guerre contre le Hamas. Pour eux, c'était une guerre contre le peuple palestinien, contre eux. Et tous ceux qui ont pu se sont précipités à l'hôpital pour donner leur sang. C'était leur première réaction.
Lui-même a l'air accablé, on l'entend au son de sa voix, alors qu'on entend à côté des gens qui crient des slogans, qui ont l'air en colère. Quelle était l'ambiance sur place?
C'était un mélange effectivement de tristesse, d'accablement même, parce que vraiment encore l'opération terrestre n'avait pas commencé. On en était, si je puis dire, encore qu'au bombardement, mais dès les premières heures de cette opération israélienne, il y avait déjà 150 morts. Et là, le 31 décembre, le bilan était déjà à 300 ou 400 morts. Donc les gens étaient catastrophés devant l'énormité des pertes. Et puis, personne, évidemment, n'avait envie de faire la fête à la maison, toutes les fêtes, parce que d'habitude, les Ramallah, comme ailleurs en Palestine, on célèbre le Nouvel An comme chez nous. Hein. Mm-hmm. Là, toutes les fêtes avaient été annulées, et donc les gens qui ont voulu se retrouver sur la place, un peu pour marquer le coup, pour dire quelque chose. Donc c'était pas du tout une ambiance de fête, mais il y avait un mélange, effectivement, d'accablement et de révolte.
Combien de personnes ?
C'est difficile à dire, mais il y avait là ce soir-là peut-être 400 ou 500 personnes sur la place Al-Manara.
Et ça a duré longtemps ?
Oui, les gens sont restés là pendant bien 2 heures. Enfin, moi j'ai quitté la place vers 1h30, il y avait encore pas mal de monde. Hein. On est arrivé vers 11h30, donc voilà. Et c'est vrai qu'à minuit, à ce moment où d'habitude tout le monde s'embrasse et tout le monde lève un verre, là c'était pas ça. Hein. Mmh. Voilà, les gens étaient avec des bougies et il y avait quand même vraiment une vraie gravité.
Alors ça, c'était le réveillon, le 31 décembre, dans les rues de Ramallah. Pour ce dernier feuillet de carnet de route, vous nous proposez une rencontre avec Yelena.
Yelena, c'est quelqu'un aussi que j'avais rencontré lors de mon premier séjour à Ramallah, un peu par hasard. Hein. C'est une femme qui tient un salon de beauté dans le centre-ville de Ramallah. Et un jour, je revenais, c'était un jour de pluie, de froid, je revenais d'un camp de réfugiés et j'étais vraiment, j'avais le moral dans les chaussettes, pour parler vulgairement. Et je me suis dit, tiens, ça me fera du bien peut-être d'aller dans un salon de beauté. C'est comme ça que je suis tombée sur Yelena, qui parlait russe. Et comme, bon, je ne parle pas arabe, mais je parle russe. Donc j'ai pu parler avec elle. Et elle m'a raconté, de son point de vue, qu'est-ce que ça fait d'être à la fois la femme d'un Palestinien, de vivre là depuis longtemps, et de partager aux côtés de son mari et avec ses enfants la difficulté, la dureté de cette occupation israélienne qui n'en finit pas.
Mmh. Et là, vous l'avez rencontrée donc dans son salon de beauté.
Je l'ai retrouvée dans son salon de beauté et comme les événements de Gaza faisaient que les gens n'avaient pas la tête à faire la fête, elle était toute seule et on a eu beaucoup de temps pour parler, donc ça m'a fait plaisir de la retrouver.
Et il ressemble à quoi ce salon de beauté ?
Écoutez, c'est juste une petite salle d'attente et puis une pièce avec avec le matériel habituel qu'on trouve dans les salons de beauté, la cire pour épiler, les miroirs et les lampes éventuellement pour bronzer, enfin tout ce qu'on trouve normalement dans un petit salon de beauté. En 5 ans, il s'est passé encore beaucoup de choses ici. Mais on ne peut pas dire que ça ait changé pour le mieux. Tout le monde espère que ça va s'arranger, mais en fait, tout va de mal en pis. Et votre mari, qu'est-ce qu'il pense ? Pour mon mari, c'est dur et pour tout le monde, c'est difficile. Avec le travail, c'est difficile.
Et
pour nos enfants aussi, ça nous fait de la peine.
On
a l'impression qu'on est dans une cage ici, on peut aller nulle part.
Мужчины, женщины, нет разницы, конечно.
Les hommes et les femmes souffrent autant. Dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau?
За 5 лет я так и осталась работать по своей профессии, как я работала.
Voilà, ces dernières années, j'ai continué à travailler avec ma profession d'esthéticienne.
Это очень сразу повлияло, видно, и вот, вот сколько дней такая обстановка, практически нет клиентов, нет людей, потому что...
Depuis là, que la situation a commencé à Gaza, il n'y a pratiquement personne qui est venu dans ce salon. Hein.
Потому что это называется салон красоты, поэтому, наверное, сейчас не до этого.
Parce que ça s'appelle salon de beauté ici et que vraiment, pour l'instant, on n'a pas le cœur à ça.
Нет у нас настроения, война, и все это, скажите, кто придет?
En ce moment, à cause de la guerre, les gens, ils n'ont pas vraiment l'envie de se faire belle.
Но других... интересных каких-нибудь событий или что работа дом работа это
alors dans ma vie il y a rien d'autre que le travail et la maison et le travail.
У меня 6 лет назад родилась третья дочь. Это, наверное, главное событие для меня.
Et le plus grand événement pour moi, ça a été il y a 6 ans quand ma dernière fille est née. Voilà, ça c'était le plus grand événement.
Но не хотела, чтобы она родилась в такое время, как сейчас.
Mais je voulais pas qu'elle vive dans une situation comme celle qu'on a aujourd'hui.
Потому что всегда хочется детям лучше.
On a toujours envie pour ses enfants de qu'ils aient ce qu'il y a de meilleur.
Мы уезжали на Украину, мы были там и.
On est parti en Ukraine.
Но не хотелось, дети не хотели возвращаться сюда, ну потому что папа, конечно.
Les enfants, ils n'avaient pas envie de revenir ici, mais pour le papa.
Папа остался здесь, он с нами не ездил, поэтому, конечно, мы вернемся там, где их папа.
Et donc leur père est venu avec eux en Ukraine, et puis après il avait envie de revenir ici, et donc on a suivi le père. Il a toujours du travail?
Да, он работает, он закончил протезирование зубной технику.
Il s'est spécialisé en prothèse dentaire?
Я тоже медицинский закончила, но по профессии я не работаю.
Moi aussi j'ai fait des études de médecine, mais c'est pas en médecine que je travaille.
Не потому что нет работы, работа есть, медики всегда находят работу.
C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de médecins, on a toujours besoin de personnel médical ici.
Но по семейному положению, потому что там ночные смены, дневные, просто.
C'est plutôt pour des raisons de famille et de vie familiale que j'ai choisi parce que je pouvais pas travailler la nuit en équipe.
Тяжело было оставлять детей, бабушек нет, дедушек нет, то есть ну, тяжело немножко.
Ici évidemment, j'ai pas des grands-parents avec moi, donc c'est plus difficile de faire garder mes enfants. Quand vous avez rencontré votre mari, vous pensiez qu'une vie comme ça vous attendait ici?
Нет, конечно, я не думала, что я знала, что здесь сложно, но не до такой степени, чтобы это было.
Je savais quand j'ai rencontré mon mari que la vie était difficile ici, mais à ce point, non, je pouvais pas imaginer.
Очень тяжело, что танки я видела раньше только на парад, когда был.
Les tanks, je les avais vus juste à la parade militaire.
И по телевизору.
Et à la télé.
Но когда был комендантский час и когда здесь тоже были израильские войска, это было немыслимо.
Mais quand on a vu arriver ici la troupe israélienne et l'armée israélienne, c'était tout simplement impensable.
Взрослый человек просто хорошо, что пережил и не сошел с ума, когда видел эту всю обстановку. И для меня было это страшно.
Pour moi, c'était vraiment une horreur. J'avais très peur. Et c'est difficile de pas devenir fou quand on voit ça.
Они не кричали, дети испугались, но они спросили, почему они пришли. Ну, я понимаю, это проверка документов.
Это было как надо?
Это было в начале антифады. Это было 6... Ну, уже 2 года прошло антифады. Антифада 8 лет. Но это было... Периодически все время заходили, каждый раз.
En fait, les soldats israéliens venaient régulièrement et ils venaient vérifier dans notre immeuble les papiers d'identité.
В основном это, конечно, ночью.
En général, ils venaient la nuit, oui.
И дети тоже, потому что что значит заходит военный человек с оружием, они
Et тоже... tout d'un coup, ils voient un soldat armé arriver dans l'appartement.
Они тоже их боятся.
Et les enfants, évidemment, avaient peur.
Я бы, допустим, не хотела, чтобы ко мне заходили военные, когда дети маленькие, они... это влияет на психику детей.
Moi, je voulais pas que mes enfants voient des soldats armés chez nous. Je pense que ça a un très mauvais impact psychologique sur les enfants.
Ведь не заходят к израильтянам так ночью, как к нашим детям. Почему у них все время страх? Конечно, это будет... Они видят их, и они их уже не любят. Потому что у детей страх.
Oui, les enfants ont peur. Hein.
Et
Вы сказали, что в Израиле как они так не делают.
Они в Израиле не делают так, конечно, наши, конечно, так не делают, но, допустим, тоже они не могут поднимать оружие. Вот они уже видят то, что творится, и она уже, или он уже психологически просто видит и думает, что они будут стрелять.
Bien sûr, quand un enfant voit une arme pointée devant lui, il pense qu'on va lui tirer dessus, hein.
И когда ехали танки возле дома, мы живем...
И когда les tanks passaient devant notre maison.
И это было все видно и слышно, и, конечно, это страшно.
И tout, on voyait tout, on entendait tout, et pour nos enfants, bien sûr, ils étaient épouvantés. Entre une femme ukrainienne et un mari palestinien, il y a sûrement des différences de culture.
Наверное, правду говорят люди, муж и жена одна сатана. Это понятно, да? То есть, наверное, в чем-то у нас есть сходство характеров, поэтому вот какой-то
Il se trouve que ben, le mari et la femme, en tout cas nous, entre nous, ben, on s'entend bien, on a un accord de tempérament.
Я не чувствую, я считаю, что муж культурно образованный человек.
Mon mari, je trouve que c'est un homme qui est éduqué, qui est instruit.
Может быть, иногда там какие-нибудь разногласия, но...
Bien sûr, il peut y avoir des différences d'appréciation qui sont différentes.
Есть проблемы, ну, как у каждых живых людей.
On a des problèmes, mais comme tous les êtres vivants.
У нас много друзей есть, которые не смогли здесь жить и уехали.
On a pas mal d'amis qui ont pas réussi à s'adapter, à vivre ici et qui sont repartis.
Это могло быть либо отношения, семейные отношения.
C'était parfois lié à des problèmes de couple.
Либо не выдержали обстановки и жизнь, которая здесь.
Ou bien ils pouvaient pas supporter la situation.
Ну, наверное, русские терпеливые, многие здесь остались.
Mais il faut dire, c'est sans doute que les Russes sont des gens qui supportent beaucoup de choses parce que finalement la plupart sont restés.
Ну, муж, допустим, к культуре Украины и России относится, очень нравится ему все, очень он заинтересован. Даже...
Mon mari, il aime beaucoup la culture et l'atmosphère de la Russie. Et de l'Ukraine.
Даже он очень много в свое время, 15 лет назад, он привозил книги русских писателей на арабском языке.
Il y a une quinzaine d'années, lui, la culture russe, il aime beaucoup, il a lu beaucoup de livres russes aussi en langue arabe.
И даже сейчас, вот моей дочери 14 лет, но он ей говорит, ты должна читать, ты должна тоже знать не только арабских писателей, но и...
Ma fille qui a 14 ans, il lui dit régulièrement, c'est pas seulement les écrivains arabes que tu dois connaître, mais c'est aussi les écrivains russes et ukrainiens.
Когда мы ездили на Украину, они были еще маленькие, конечно, в таком возрасте 5-6 лет я не поведу их в театр, они детский театр.
Quand on est allé avec eux en Ukraine, elles étaient encore très petites, mes filles, donc un peu jeunes pour aller au théâtre, mais je les ai quand même emmenées voir le théâtre de marionnettes.
Но они были в восторге, они первый раз это видели, и они не хотели уходить. Это...
Elles ont été tellement emballées par le spectacle de marionnettes qu'elles ont vu à Kiev, elles ne pouvaient pas sortir de la salle.
И фигурное катание, конечно, они это...
Elles ont vu aussi le patinage artistique.
Они просят, может быть, где-нибудь здесь можно это все сделать или купить коньки, ну где кататься и где это невозможно.
Elles aimeraient bien faire du patin ici, du patin à glace, mais où trouver une patinoire ici, c'est impossible.
On quitte la Cisjordanie quelques secondes pour Val d'Isère. On retrouve tout de suite Joël Robert pour la seconde manche du géant qui s'est terminée il y a quelques instants.
Et une magnifique fin de géant puisqu'il y a une nouvelle médaille d'or pour l'équipe de Suisse. Carlo Janka est champion du monde de slalom géant. Le grison, déjà médaillé de bronze de la descente l'autre jour, remporte alors avec brio et avec classe à 22 ans et 3 mois la première grande victoire de sa carrière. Il est champion du monde, 71 centièmes d'avance sur Benny Reich, l'Autrichien qui est deuxième. Troisième, Ted Ligeti, l'Américain à 99 centièmes. On trouve quatrième, Hirscher, l'Autrichien, cinquième, Blardone, italien. Sixième, Didier Kuch, seulement est-on tenté de dire, parce que Didier Kuch était quatrième après après la première manche. Il n'a réussi que le 18e chrono dans la deuxième manche. Il a commis beaucoup trop d'erreurs pour espérer monter sur le podium. Il n'y a donc qu'un seul Suisse aujourd'hui en or, Carlo Jonka, côté helvétique. On trouve encore à la 10e place Marc Berthaud Le Grison et à la 20e Didier Defago. Tous ces athlètes, bien évidemment, vont fêter le fabuleux titre, la merveilleuse médaille d'or de Carlo Jonka.
On est avec Yelena pour ce dernier feuillet du carnet de route d'Anne Brunswick en Cisjordanie. Yelena, femme élégante, la petite quarantaine, née à Kiev en Ukraine, mariée avec un Palestinien rencontré à l'époque où il y avait de nombreux contacts entre l'Union soviétique et le monde arabe. Yelena, trois enfants, installée à Ramallah où elle tient un petit salon de beauté et entretient avec d'autres Russes palestiniens le souvenir, la culture, la nostalgie peut-être aussi de son pays natal.
Практически 250 семей украинцев и русских проживают в Рамалла.
Il y a pratiquement 250 familles qui sont mixtes, soit russes, soit ukrainiennes, et qui vivent ici à Ramallah.
Et практически все работают.
Parce que toutes ces femmes travaillent.
Выучили язык, работают, то есть.
Elles ont appris la langue et elles travaillent.
Все бы было бы прекрасно, если бы не вот эта политическая обстановка, которая происходит.
Vraiment, s'il n'y avait pas cette situation politique, vraiment tout serait ici formidable.
Конечно, мы встречаемся, даже у нас есть совместные вечера, мы делаем.
Bien sûr, on se retrouve entre nous et on a des soirées.
Делали детские утренники новогодние.
On a fait aussi, par exemple, des réunions pour les enfants pour le Nouvel An.
И, конечно, не только что где когда, не только вечера, и общаемся. Приходят сюда, конечно, и домой приходят. Мы общаемся, и дети наши, чтобы как-то они тоже не забывали русский язык.
On fait aussi ce qu'il faut pour que nos enfants n'oublient pas la langue russe, donc on se retrouve régulièrement, on est amis. Oui. Donc vous, не знаю, читаете русскую или украинскую литературу, у вас есть здесь библиотека или что?
Библиотеки здесь нет. В смысле, библиотеки есть, но это литература, может быть, на английском, может быть, на других.
On a des bibliothèques ici, mais c'est en anglais. А по-русски нет.
А по-русски нет, и поэтому, конечно...
Il y a pas de bibliothèque en russe ici.
И поэтому книги, которые есть возможность, кто-нибудь привозит с Израиля...
Donc on apporte des livres russes d'Israël.
Каждому, как нравится, нравится роман, детектив.
On apporte des romans policiers. Потому что в Иерусалиме есть книжные магазины по-русски, да? À Jérusalem, du côté ouest, il y a des librairies en russe. Oui.
Даже здесь, вот иногда раньше не было продуктов, которые, допустим, мы, как вот в Рамалла, не в Рамалла, у арабов есть национальное блюдо. Нам тоже иногда хочется что-нибудь.
Alors à Ramallah, on trouve pas forcément les produits alimentaires russes et parfois ça nous manque, oui.
Поэтому, когда есть разрешение на Израиль, на Иерусалим,
quand on a la permission d'aller à Jérusalem, en Israël,
мы ездим в русские магазины и покупаем там продукты.
On va dans les magasins russes et on achète des produits. Какие примерно?
Например, там есть рыба, которую соленая, как любим мы.
On achète du poisson salé, comme nous on l'aime, oui.
Сладости, которые напоминают нам наше детство, наше...
Des sucreries, des douceurs qui nous rappellent notre enfance.
Это могут быть торты, это могут быть конфеты.
Des gâteaux, des bonbons.
Также, допустим, там...
Колбаса тоже.
Колбаса обязательно.
И aussi on achète du saucisson, потому что там продают, по-моему, свинину, да?
Свинину, конечно.
Là-bas, de l'autre côté, il y a des magasins qui vendent du saucisson de porc.
Ну, вы знаете, что, вот, допустим, не в каждой семье, если, допустим, здесь живут русские, да, то не в каждой семье они едят свинину. Это просто за уважение к семье.
Bon, bien sûr, par respect pour le conjoint, peut-être qu'on va pas manger du porc partout, mais c'est pas dans chaque famille ici qu'on va manger du porc.
Здесь есть тоже колбаса, но она, конечно, она не свинина, вкусная.
Bien sûr, on trouve à Ramallah du saucisson, mais c'est pas du saucisson de porc, et il est bon aussi.
Потому что очень много русских здесь, они уже видят, что мы просим.
Voilà, parce qu'ils ont bien compris qu'il y a pas mal de Russes ici et qu'il y a de la demande pour ça, ouais. quand vous êtes là au checkpoint et que vous entendez des soldats qui, israéliens qui parlent russe, quel effet ça vous fait?
Нет, они отвечают по-русски, иногда не отвечают по-русски. Может быть, это потому, что они или не хотят, или не знают, как отвечать. Ведь тоже есть те, которые родились в Израиле. И...
On entend parler le russe, il y en a qui vous répondent en... On entend parler le russe au checkpoint, il y en a qui vous répondent en russe, d'autres qui ne vous répondent pas en russe. Certains sont déjà nés en Israël.
Но отвечают, и если нет нарушений, если есть разрешение в Израиле, они никто ничего не трогает. Но очень тяжело слушать то, что тебя проверяют русские.
Bon, si on a des papiers en règle, ils vous embêtent pas trop. Sinon, évidemment, ils vous font des histoires. Mais c'est vrai que ça fait très mal d'entendre des gens qui vous parlent russe et qui sont en train de vous contrôler de l'autre côté.
Они не трогают, никто никого не трогает. Но
Non, en général, ils vous font pas, ils nous font pas trop de mal.
Могут нагрубить.
Mais ça arrive qu'ils soient grossiers, qui vous engueulent.
Мы тоже можем нагрубить.
Et nous aussi, ça nous arrive d'être, voilà, de nous énerver, d'être grossiers.
Абсолютно все разные, поэтому всякое бывает.
Oui, il y a vraiment tout peut arriver, il y a de tout. Vous avez des amis en Israël qui parlent russe?
Я училась в Тель-Авиве, потому что когда я приехала сюда, я не знала арабский, и я училась в школе косметики.
J'ai suivi mes cours d'esthétique et de maquillage à Tel-Aviv, et donc je connais oui des gens de l'autre côté en Israël qui parlent russe.
И у меня очень много друзей осталось там, с которыми до сих пор даже мы разговариваем. Нет возможности видеться, но они звонят.
On n'a pas les moyens de se rencontrer avec nos amis de l'autre côté, mais on se parle au téléphone. Donc.
Все, конечно, соболезнуют в том, что происходит у нас, и надеются на лучшее.
Bien sûr, ils savent ce qui nous arrive et ils espèrent que ça va s'arranger.
Конечно, у них есть другой взгляд. И некоторые у меня есть друзья, которые, допустим, девушки, они со мной общаются, а их мужья против.
Par exemple, j'ai des amis là en Israël, elles me parlent, on se parle régulièrement, mais leurs maris ne veulent pas m'adresser la parole.
И какие бы ни были у нас отношения, они не захотели бы, чтобы они приезжали сюда.
Et quelles que soient nos relations d'amitié, les maris n'ont jamais voulu que leur permettent de venir ici.
Но они звонят, спрашивают, как у вас, как живете.
Mais elles prennent régulièrement des nouvelles au téléphone. Comment vous allez? Comment va la santé? Comment vous vous en sortez?
Тоже жаль все, что так происходит. Они пока не было антифады, так все приезжали в гости и друг друга видели, и это было без проблем. Но, конечно, сейчас.
Jusqu'à l'intifada, les gens pouvaient venir ici et on se rencontrait, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que depuis l'intifada, ça fait déjà donc 8 ans, ben ils peuvent plus venir et on se voit plus, donc on se parle au téléphone.
Я 8 лет их не видела, никого.
Voilà, ça fait 8 ans que je n'ai plus vu personne.
شوفك وإلى وين شديد زمان ميل تنشوفك وإلى وين
C'était l'ensemble musical de Palestine. Anne Brunswick, on vient d'entendre Yelena, ukrainienne, mariée avec un Palestinien, installée depuis 15 ans à Ramallah. On peut imaginer qu'elle, elle va rester dans ce pays, elle va rester en Cisjordanie, elle nous le dit par amour. Mais ses enfants, eux, qu'est-ce qui va leur arriver ?
Elle a trois filles et c'est vrai que la fille aînée est une adolescente et probablement qu'elle ira faire ses études à l'étranger, pas forcément en Ukraine, ça peut aussi être aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens de Ramallah qui vivent aux États-Unis et au Canada. Il y a une grande diaspora palestinienne un peu dans le monde entier, mais surtout là-bas. C'est difficile à dire parce que les jeunes, une fois qu'ils sont diplômés, qu'ils ont eu un diplôme aux États-Unis, comment est-ce qu'ils vont trouver du travail en Cisjordanie ? C'est compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu à cheval, qui passent une partie de leur vie au Koweït, aux États-Unis, qui reviennent, souvent avec des papiers pas tout à fait en règle. J'en ai rencontré beaucoup des jeunes comme ça en Palestine qui sont dans des situations bancales, qui voudraient évidemment revenir par conviction nationale, ils voudraient s'accrocher à cette terre palestinienne. Mais encore faut-il qu'ils puissent trouver du travail.
On arrive au terme de cette série de reportages réalisés donc au moment de l'opération israélienne à Gaza. Anne Brunswick, quelle image est-ce que vous ramenez de cette région, de ce voyage ?
J'étais un jour à Hébron, dans une famille dont les voisins sont des rabbins new-yorkais. Des colons juifs absolument fanatiques et qui ont décidé de leur rendre la vie impossible. Et je n'imaginais pas ce que ça voulait dire de vivre dans la proximité de voisins pareils. Ils leur ont coupé l'eau, ils leur ont coupé l'électricité, ils jettent des cailloux sur leurs enfants, ils ont coupé les arbres qui constituent la tonnelle autour de la maison. La femme voulait partir accoucher, ils l'ont empêchée de sortir de la maison pour aller accoucher. Et ces gens-là sont véritablement assiégés dans leur maison. On ne peut plus rentrer par le chemin principal de cette maison. Il a fallu qu'on passe un détour par un petit jardin, par une échelle, et en se courbant pratiquement à quatre pattes pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Et ce n'est pas un cas unique à Hébron. Il y a beaucoup de gens qui vivent absolument harcelés par ces colons qui sont des fanatiques et qui sont là depuis longtemps. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont 400 à 500, ces juifs fanatiques, dans le centre-ville d'Hébron. Et ils sont soutenus par 2 à 3 000 soldats israéliens qui rendent la vie absolument impossible aux habitants d'Hébron.
Et comment est-ce que vous, on le disait en début de cette semaine, vous qui êtes juive, qui dans la famille est sioniste, dont la grand-maman enterrée à Jérusalem était très sioniste, comment est-ce que votre cœur, ce cœur-là, a battu lors de cette rencontre ? Quel était votre sentiment ?
Je me sentais parfaitement solidaire de cette famille palestinienne et je trouve que ces rabbins juifs se comportent comme des fanatiques fascistes, voilà, si vous voulez mon avis, et racistes. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Maintenant, je me sens pas de honte parce que je me sens pas solidaire de gens qui se comportent d'une telle manière.
Vous étiez, Anne Brunswick, avec votre nièce lors de ce voyage, Anaïs Laurenceau Brunswick. Si j'en parle, c'est parce que les photos qu'on peut voir sur notre site internet sont signées d'Anaïs Laurenceau au Brunswick. Je crois qu'elle est avec vous. C'est une jeune étudiante de 20 ans, m'avez-vous dit. Vous êtes là, Anaïs ?
Oui, je suis là.
Vous êtes à côté. C'était votre premier voyage, m'a dit votre tante Anne. C'était votre premier voyage en dehors de l'Europe, premier voyage en Palestine. Alors j'ai simplement envie de vous demander, à vous qui avez pris des photos, qui avez aussi plein d'images dans les yeux, au fond, quelle image forte est-ce que vous, jeune française de 20 ans, avez ramené de ce voyage ?
Alors j'ai beaucoup d'images qui me reviennent en pensant au voyage en Palestine. Mais s'il y a une ambiance qui m'a vraiment marquée là-bas, je pense que c'est celle de la ville de Naplouse, qui est la capitale de la résistance et dans laquelle, disons que la violence quotidienne est vraiment palpable. Et particulièrement le souk de Naplouse, dans lequel on ne peut pas fermer les yeux sur tous les monuments aux morts qui sont là, tous les 5 mètres sur des affiches ou gravés dans les murs. Et au-delà de ça, dans la vie quotidienne des gens et dans les yeux des enfants qui jouent avec des kalachnikovs en plastique. Bon, voilà, c'est ça qui m'a marqué beaucoup. Et je me suis demandé, ça m'a fait me poser la question de l'éducation d'enfants dans une violence permanente. Enfin, je me suis posé la question d'une paix dans ce genre d'ambiance et de violence permanente sous l'occupation.
Et votre identité, j'ai posé la question à votre tante, je vais vous la poser à vous aussi. Quelle identité, vous dont l'arrière-grand-mère était sioniste enterrée à Jérusalem, cette identité-là, est-ce qu'il en reste quelque chose et comment est-ce qu'elle a vibré au contact des Palestiniens que vous avez rencontrés sur place ?
Eh bien, de mon côté, moi je ne me sens pas du tout juive personnellement, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des identités comme ça assez multiples dans ma famille, avec un père qui est plutôt chrétien et une mère d'origine juive, on va dire, et arriver comme ça dans un pays où la religion a vraiment de l'importance par rapport à la France, où on a une éducation laïque, ça m'a fait prendre conscience de l'importance que ça peut avoir, les origines, à partir du moment où on est dans un pays, je dirais, à fonctionnement raciste.
Ça vous a donné envie d'aller en Israël ?
Envie d'aller en Israël, je ne sais pas. Pourquoi pas plutôt par curiosité que pour retrouver mes origines. Je pense que c'est quelque chose que je ne ressens pas vraiment dans mon identité propre.
Merci beaucoup Anaïs, je vais rappeler, c'est vous qui avez fait les photos pour notre site internet dromadaire.rsr.ch. On peut voir une galerie des photos que vous avez réalisées lors de ce voyage. Et puis bonne suite à vous aussi Anne Brunswick, on aura sûrement l'occasion de se retrouver au détour d'un carnet, soit dans cette région du Proche-Orient, soit en Russie, une région que vous aimez aussi beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, au revoir Cyril.
Au revoir. Et puis on va signaler la sortie très prochaine de votre nouveau livre, suite notamment à un reportage que vous aviez réalisé pour nous, c'était en Carélie, diffusé à Pâques dernier, un livre qui s'intitule « Les eaux glacées du Bellomorcanal » paru aux éditions Actes Sud et qui sera en librairie dans une quinzaine de jours. Nicolas Vadimov, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous quelques minutes pour clore cette semaine en Cisjordanie. Vous êtes réalisateur, vous êtes cinéaste, vous connaissez très bien Ramallah, vous connaissez très bien la Cisjordanie, vous y êtes allé à plusieurs reprises, vous avez participé au Festival international du film de Ramallah, vous avez animé aussi des ateliers entre professionnels suisses et palestiniens. Vous êtes également l'auteur, notamment avec la journaliste Béatrice Galpa, d'un documentaire sur l'initiative de Genève, cette négociation secrète pour le règlement du conflit israélo-palestinien, un accord qui a fait long feu depuis. Là, vous allez partir dans quelques jours, mardi je crois, pour la Palestine, pour Gaza. Vous avez été mandaté par une fondation basée au Qatar pour réaliser un film sur Gaza. Quelle est votre envie ou qu'est-ce qu'on vous a demandé de raconter de la réalité de Gaza ?
On m'a demandé de raconter avec un regard, disons, neuf, c'est ce qu'ils ont désiré, de raconter la guerre, de raconter les effets de la guerre, je dirais, surtout sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes. Donc je me suis rendu à Doha pour voir ces producteurs qui travaillent pour le compte d'une chaîne qui s'appelle GCC, Jazeera Children Channel, et qui envie maintenant de dépasser un peu son mandat de chaîne éducative et pour la jeunesse et de produire donc des documentaires qui vont, qu'ils espèrent voir montrer dans les festivals internationaux ou sur d'autres télévisions. Voilà. Alors ce sera, c'est pas un film uniquement pour eux, c'est un film aussi enfin, dont ils sont, je dirais, les initiateurs, mais qui va probablement être coproduit aussi par des chaînes européennes. Alors je pars un peu dans le, j'ai quelques idées, j'ai des pistes, j'ai des sensations. J'ai des émotions, j'ai des quelques connaissances, mais je crois que tant que je n'aurai pas été sur place pendant quand même une bonne semaine, ce sera difficile de faire exactement ce que je vais y faire.
Parce que Gaza, c'est la première fois que vous y allez, je crois. Hein?
Non, Gaza, j'y suis déjà allé deux fois. J'y suis allé une fois dans les années 80, et j'y suis allé la deuxième fois lorsque nous tournions avec Béatrice Guelpa le documentaire sur l'initiative de Genève, l'accord. Mais ça n'a, je crois, absolument strictement rien à voir avec la situation aujourd'hui. De l'avis de tous les gens avec qui j'ai parlé, de tous les gens que je connais qui sont allés ou qui n'ont pas pu y aller, je crois que la situation n'a jamais été aussi, aussi compliquée, et surtout aussi loin de celle de leurs frères et je dirais compatriotes de Cisjordanie.
Vous parlez de la complexité, justement, Nicolas Vadimov. On s'en est rendu compte tout au long de cette semaine de la complexité de la situation de toute cette région. On a appris, par exemple, hier que Amnesty International avait publié un rapport qui accusait le Hamas d'avoir une campagne d'élimination des opposants juste avant et pendant l'opération israélienne. Donc, chaque fois qu'on essaie d'avoir un avis, de donner du sens à ce qui se passe dans cette région, on est confronté à une réalité qui nous dit un peu autre chose. Comment est-ce que dans des conditions comme celle-là, on essaye de raconter une histoire.
C'est exactement la question que je me posais ce matin avant de vous parler, où j'ai effectivement entendu des flashs d'infos sur le rapport d'Amnesty. Ça ne m'étonne même pas vraiment. Je pense qu'on n'est qu'au début de tout ce qu'on va découvrir. Je crois que ça a été trois semaines de guerre absolument apocalyptique. Et puis, la guerre, c'est la guerre, même si on aimerait que ce soit autre chose. Moi, je crois qu'il faut absolument pas que je me fasse happer par ces informations successives qui vont pas arrêter d'arriver dans les temps à venir. Moi, j'ai pas du tout envie, en tout cas sur ce film-là, de faire un film qui se fait happer, je dirais, par la question strictement politique du conflit. J'ai l'impression que on peut sans cesse ressasser l'éternelle responsabilité de départ, qui a commencé, qui n'a pas commencé. Les avis divergent selon les sensibilités aussi. Bon, moi j'ai le mien, mais qui n'est aussi fait que de ce que je connais. Donc là, en l'occurrence, je crois que j'ai vraiment envie de raconter cette guerre sans devoir dire au début de film, comme il faut parfois le faire, que c'est parce que le Hamas a rompu la trêve ou que c'est parce qu'Israël a rompu la trêve et qu'ensuite, parce que ça met, je crois, c'est des dossiers, il y a des gens qui le font très très bien. Il m'est arrivé de travailler sur des dossiers comme ça, peut prendre, je pense que deux fois une heure et demie ne suffirait pas. Donc en l'occurrence, il y a une chose dont on parle très peu, j'ai l'impression, c'est il y a une génération que j'appellerais génération Gaza, qui sera peut-être le titre du film d'ailleurs, qui sont des jeunes nés soit un peu avant 2000, soit dès 2000, qui n'ont connu que la guerre, que le blocus, que l'embargo, et qui ont un rapport, je dirais, à l'autre, en l'occurrence à Israël, aux Juifs, qui est plus que démonisé. Et c'est-à-dire que c'est très difficile d'imaginer que ça puisse être autre chose. Donc, je crois que c'est une première fois dans l'histoire, en tout cas récente, qu'une population entière, dans sa totalité, a un rapport à l'autre totalement unidimensionnel. Et ça, c'est totalement effrayant. Je crois que, sur le coup, Israël n'en a absolument rien à faire, soit il ne pèse pas le poids de ça. Mais dans les années à venir, ces gens vont avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et il n'y a absolument rien qui nous laisse penser que leur opinion pourrait changer. Et rien n'a été fait pour que leur opinion puisse changer. Donc, des gens qui n'ont tenu que la guerre, qui ont été décimés en plus maintenant physiquement. Je crois que ce qui se passe à Gaza est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a eu les bombardements, il y a eu aussi les opérations terrestres au sol, dont on commence à savoir un peu le détail. Je crois qu'il y a eu une volonté de punir collectivement les Palestiniens, ce que Israël ne dément pas d'ailleurs, ce qu'ils reconnaissent tout à fait. Et ça a des effets sur, et particulièrement sur les jeunes. Moi, c'est ça que je vais raconter. Maintenant, j'ai quelques pistes assez précises, mais je verrai sur place comment
C'est ça votre point de départ, au fond?
Mon point de départ, c'est ça. Ouais, je crois que ça va définitivement être ça, parce que l'information sur ce qui s'est passé, on va finir par l'avoir. Il y a des gens qui font très bien leur boulot, que ce soit justement Amnesty, qui le fait d'ailleurs dans les deux sens, hein.
Bien sûr.
Que ce soit Human Rights Watch, que ce soit le CICR, que ce soit les Nations Unies, qui ont dénoncé beaucoup de choses. L'utilisation des bombes au phosphore, l'utilisation de ces horribles petites bombes remplies d'aiguilles, de fléchettes, tout ça est absolument innommable. Je pense que les gens qui ont envie d'avoir des informations ont pu les avoir. Il y a en plus Al Jazeera qui était sur place avec leurs correspondants, qui étaient finalement les seuls qui ont pu être là pendant la guerre, qui ont envoyé une somme d'images absolument hallucinantes, toutes plus terribles les unes que les autres, qu'on a moins vues sur les chaînes occidentales, mais que les Arabes ont énormément vues. Et je crois qu'ils ont eu envie, en tout cas, ces producteurs, que je fasse quelque chose d'autre, c'est-à-dire porter un regard qui soit peut-être un peu moins guidé uniquement par une dimension émotionnelle. Et alors, je ne dirais pas qu'il s'agit de prendre du recul, parce que je n'ai pas là-bas comme journaliste, mais je vais essayer, encore une fois, de raconter les effets de la guerre. Moi, je pense beaucoup au silence, je pense beaucoup à l'absence. Pour moi, la guerre, c'est des gens qui ne sont plus là aussi, par exemple. C'est des familles où ils étaient 12, où ils sont peut-être aujourd'hui plus que 3. C'est un peu ça que j'ai envie de raconter aussi.
Merci beaucoup, Nicolas Vadimov.
Ok, je vous en prie. Merci.
Et bon voyage.
Merci, au revoir.
Au revoir. Gariba Wamid sur la première pour mettre un terme à cette semaine palestinienne que vous pouvez d'ailleurs réentendre, que vous pouvez également télécharger sur notre site internet dromadaire.rsr.ch, un site sur lequel vous pouvez également voir les photos d'Anaïs et puis, si vous le souhaitez, nous faire part de vos remarques et de vos commentaires. Semaine prochaine, on change de décor. Mélanie Croubalian et Louis Imbert vous emmènent en Asie centrale.
Radio Suisse remonte la première, un dromadaire sur l'épaule.
Si c'est une belle petite baignoire et Arkady est en train de s'y plonger.
Ощущение, как в горячем шоколаде.
Oui. C'est une impression quand tu es dans un chocolat. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il est en plein bain de chocolat.
Да. Ощущение, как в горячем шоколаде. Масса комфорта и очень тепло и уютно. Комфортно.
Ici, c'est trop confort, et c'est très chaud, c'est bien.
Ah, c'est chaud ?
Ah oui.
Alors, que je vous décrive l'endroit, on est dans une salle de bain tout ce qu'il y a de classique, en fait, hein, avec du carrelage au mur, des jolies petites poignées pour se tenir, pour se sortir de cette espèce d'énorme tas de boue dans lequel Arkady est en train de baigner. Une baignoire en émail, tout ce qu'il y a de classique aussi. Une tuyauterie qui a l'air quand même un petit peu élargie pour arriver à faire passer ce machin. Et puis dans cet émail blanc et clair, avec ses petites poignées en métal ouvragé, charmant, il y a Arkady qui a réussi à faire rentrer la totalité de son grand corps dans un gigantesque bouillon. Il y a ses doigts de pied qui sortent là-bas au fond, il les remue.
Et dans un gigantesque bouillon noir, ouais, ça ressemble assez à du chocolat. Il y a des petits fils d'huile qui partent, qui bougent selon les mouvements d'Arcadie. Il y a de la mousse. Il y a des endroits qui ont l'air un petit peu plus denses que les autres. Et puis une partie du corps d'Arcadie dépasse. La tête, en tout cas, il ne l'a pas plongée. Ça remonte, la trace monte jusqu'à son cou. Ça couvre entièrement sa peau, bien entendu. Ça ne coule, ça ne glisse pas.
Домой прийти еще раз, гелем помыться, и тогда как бы запах уйдет. А одежда, которую ты одеваешь на тело, на ней остается запах.
Il faut aller à la maison et prendre encore une douche avec les gels pour que tu ne sens
bien
pas
savonné.
Dans les vêtements, cette odeur, elle reste.
Ah, tu la sentiras encore toute la journée dans les vêtements et demain?
Завтра, да.
Aussi.
Et après-demain?
Deux-trois jours.
Il reste presque deux ou trois jours.
Ça va, vous êtes prête? Elle nous fait signe qu'elle est prête à supporter ça.
Mélanie Kroubalian, c'est quoi cette histoire de bain de pétrole? Où est-ce qu'on est?
Alors, on est en Azerbaïdjan, tout près de Bakou. C'est un endroit qui s'appelle Naftalan. Et Naftalan, c'est aussi le nom de ce pétrole très spécial qu'on utilise pour soigner toutes sortes de maladies. Alors, il y a le psoriasis, les rhumatismes, l'arthrite et d'autres.
Et ça marche?
Ah bah alors ça, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, les clients sont là, dans ces spas pétroliers assez luxueux. Ils affluent et ça monte maintenant. Il y en a de plus en plus qui arrivent du monde entier, de Russie aussi, là, justement. En l'occurrence, Arkady est un athlète sibérien qui s'est accordé avec sa femme 10 jours de cure pétrolière. Il avait mal aux genoux, apparemment. Là, il était justement dans son bain de pétrole pour essayer de soigner ce genou. Pour remplir sa baignoire, il faut un baril de brut. Un baril de brut, c'est 159 litres de pétrole. Pas mal, hein?
C'est pas mal, ouais.
Pour prendre un seul bain, et puis il en prend plusieurs, évidemment, pendant cette cure. Mais des barils, la mer Caspienne, elle en a beaucoup en réserve, on le verra toute la semaine prochaine. On parlera du pétrole sous toutes ses formes. La région vit au rythme de ce liquide précieux. On estime que 5% du total mondial des réserves de brut se trouve là, entre l'Azerbaïdjan au sud-ouest et le Kazakhstan, au nord-est de cette mer fermée. Autour de cette mer, on trouve aussi la Russie, l'Iran, le Turkménistan. Autant dire que la mer Caspienne est aujourd'hui un lieu hautement stratégique. Les différents États luttent pour obtenir l'accès à ces réserves encore peu exploitées et pour les acheminer hors de la région. À part le pétrole, on trouve aussi du gaz. Tout ça donne un petit monde étrange, une atmosphère de ruée vers l'or noir entre expatriés, parachutés sur place pour travailler dans les grandes compagnies étrangères et populations locales qui peinent à joindre les deux bouts et vivent à l'ombre des pompes à pétrole.
C'est pas dangereux de prendre un bain de pétrole? Alors, on fume.
Si on fume, non, parce que ce naftalan, justement, ce pétrole spécial, ne brûle pas. Par contre, il y a des théories qui disent que c'est cancérigène.
Mer Caspienne, mer d'huile, un monde de brut, des carnets de route de Louis Humbert, à découvrir donc la semaine prochaine sur la première, 14-15h. On arrive au terme de cette émission. Merci toute cette semaine à Dominique Stalder, à Alexandre Lemierre à Paris, à Isabelle Barthes, ici en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, Nathalie Schoenberg a choisi les musiques, Dany Sulam pour notre site dromadaire.rsr.ch, Emmanuel Villard pour le montage des reportages d'Anne Brunswick, et bien sûr Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Anne Brunswick, Cyril Desprats, excellent après-midi, très bon week-end. Il va être 16h à Ramallah, 17h à Bakou en Azerbaïdjan et 15h sur la première.